les chroniques Road Movies Ophic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey Assembly 3044.
Et sur radiogrenouille.com.
Le film de David Lynch, Une histoire vraie, daté de 1998, occupe une place particulière dans le genre, dans l'histoire du genre, dans l'histoire du road movie. Alors tout d'abord, c'est un film qui est inspiré de faits réels, ce qui n'est pas très fréquent. Et les faits réels, c'est l'histoire donc d'Alvin Strait, un vieux monsieur qui avait décidé de rejoindre son frère pour se réconcilier avec lui. Et son frère habitait à 400 km de chez lui. Et pour parcourir ces 400 km, il n'avait eu d'autre solution que de partir au volant de sa tondeuse à gazon. Donc c'est 400 km en tondeuse à gazon pour rejoindre son frère. Et la deuxième originalité du film aussi, c'est que c'est un film donc très lent, bien évidemment, alors que le road movie est souvent associé, peut-être à tort, mais en tout cas il est souvent associé à l'idée de vitesse, de précipitation, etc., de puissance. Alors que là, en tondeuse à gazon, on ne va pas aller très vite.
I'm a Netto with Salvin, and he's driving his lawnmower.
Alvin! What are you setting out to do here?
C'est un film, une histoire vraie, qui occupe une place particulière également dans la filmographie de Lynch lui-même. On sait que Lynch, c'est avant tout le cinéaste des mondes multiples, le cinéaste du mélange du rêve, de la réalité, du cauchemar, avec des univers fantastiques, avec des récits bifurquants. Or, ici, on a, à première vue en tout cas, une impression de linéarité, de normalité, si j'ose utiliser ce terme, et puis aussi peut-être de réalisme, par rapport à beaucoup de films de Lynch. Une histoire vraie apparaît comme un film beaucoup plus réaliste. Or, je voudrais montrer dans cette chronique que le concept de réalisme est un concept fortement problématique. En réalité, le réalisme en art, ça n'existe probablement pas. Et d'ailleurs, pour prendre peut-être un peu le spectateur à rebours, David Lynch, qui aime souvent les formules paradoxales, a dit d'une histoire vraie que c'était, selon lui, son film le plus expérimental, alors qu'a priori, il semble être le moins expérimental. Je cite David Lynch, sur une histoire vraie donc, « J'ai vu qu'il y avait un récit linéaire avec peu d'éléments, ce qui pour moi était une façon d'expérimenter. » Chaque film est une expérience, mais la trame d'une histoire vraie était si ténue que chacun de ces éléments en devenait important. Donc vous deviez les observer de très près. Fin de citation. Voilà, donc je voudrais montrer que le réalisme est un concept problématique, en général et en particulier pour une histoire vraie, je voudrais le montrer à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que ce film en apparence linéaire et réaliste et normal, entre guillemets, eh bien, on peut s'amuser en le regardant à en repérer les bizarreries. Comme très souvent chez Lynch, les bizarreries dans ce film vont être liées à l'usage du son et au rapport entre le son et les images. Dès le début d'ailleurs, il y a donc un travelling sur le jardin d'Alvin Strait, un travelling qui fait beaucoup penser d'ailleurs au tableau d'Edward Hopper. Et puis on entend un bruit sourd, une chute qui crée un malaise parce que justement on ne voit pas ce qui tombe et on s'apercevra très vite qu'en fait c'est justement le personnage qui est tombé mais on ne l'a pas encore vu. Ensuite c'est l'usage, comme souvent chez Lynch, des sons sourds, des sons filtrés, mélangés, difficiles à identifier. Par exemple quand Alvin Strait est chez le docteur, ou bien quand il tire sur sa tondeuse, ou bien quand il est doublé par des vélos, ou bien quand il a des souvenirs de la guerre, et bien à tous ces moments-là, en fait, la bande-son se surcharge de sonorités, de bruits assez étranges et assez dérangeants, comme toujours dans le cinéma de Lynch. Une autre source de bizarrerie dans le film, ça va être la forêt. On sait que la forêt, c'est un élément qui revient tout le temps chez David Lynch. Bon, après, il peut y avoir plusieurs explications à ce fait, notamment le métier qu'exerçait le propre père de Lynch. Enfin, Lynch, en tout cas, il dit que c'est une des raisons. Et par exemple, la forêt ici, c'est une jeune fille qui sort de la nuit et on ne voit pas trop d'où elle vient. C'est aussi le daim qui surgit de nulle part. Il y a une scène d'ailleurs assez comique avec une automobiliste qui écrase régulièrement des daims qu'elle ne voit pas surgir, comme s'il surgissait de nulle part. Donc là aussi, élément d'étrangeté.
Where do they come from?
Oh.
dead. And I love deer.
Donc on voit que un film et une œuvre d'art en général ne renvoie jamais de façon transparente à la réalité. Le réalisme, c'est toujours une construction et il se cache toujours derrière le réalisme quelque chose qui est construit, qui est fabriqué. Alors notamment pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais aussi parce qu'une œuvre, un film en l'occurrence, il renvoie toujours à d'autres films. Un film ne renvoie jamais simplement à une réalité qu'il représenterait, mais il renvoie aussi à d'autres films. Et ça sera le deuxième niveau que je voudrais aborder pour problématiser cette notion de réalisme. Ce renvoi à d'autres films, on peut appeler ça l'intertextualité, ou plus précisément, l'interfilmicité. Et l'interfilmicité, elle existe dans Une histoire vraie de Lynch, notamment par le choix des acteurs. Par exemple, le frère que va rejoindre Alvin Streitz, il est interprété par Harry Dean Stanton, qui est un acteur majeur de l'histoire du road movie. C'est un autostoppeur dans Macadam à deux voies, c'est le personnage principal de Paris, Texas, c'est un des personnages principaux de Sailor et Lula, du même David Lynch. Donc cet acteur, il charrie avec lui toute l'histoire en fait, du genre, et sa présence en tant que vieil homme, hein, puisque en 98 il a effectivement l'apparence d'un vieil homme, ça fait qu'une histoire vraie apparaît comme un road movie crépusculaire. Un road movie qui en fait accuse la vieillesse du genre road movie et son éloignement avec les heures glorieuses de la contre-culture, du nouvel Hollywood, etc. Voilà, en 98, eh bien, les années 60, c'est loin. Et on le voit avec l'âge de Harry Dean Stanton. Autre acteur, alors encore plus central dans le film, c'est l'acteur qui joue Alvin Straight, c'est Richard Farnsworth. Et cet acteur, alors lui, il vient pas du road movie, il vient carrément du western, donc avant, on pourrait dire, le road movie, puisque Farnsworth a été figurant et cascadeur dans des grands films hollywoodiens, notamment il a été la doublure d'acteurs aussi prestigieux que Gary Cooper ou Henry Fonda dans des westerns. Et donc ici, il y a comme une mise en abîme de la dimension crépusculaire, puisque si Harry Dean Stanton renvoie au road movie, c'est-à-dire aux années 70, disons, pour aller vite, eh bien Farnsworth, lui, il renvoie au western des années 40, 50, 60, donc encore plus loin. Ah, et donc il y a un éloignement ici presque infini avec le western des années 40 et 50 qui est exprimé par la présence de l'acteur lui-même. Je ne citerai pas toutes les autres allusions au western dans ce film, je laisse l'auditeur le soin de les retrouver lorsqu'il reverra ce film de Lynch. Le troisième et dernier niveau qui fait que le réalisme ça n'existe pas, c'est qu'il y a toujours dans une œuvre d'art, même si ce n'est pas voulu d'ailleurs par l'auteur de l'œuvre, une dimension symbolique voire allégorique. C'est-à-dire que le spectateur, consciemment ou inconsciemment, projette sur le récit des thèmes, des motifs, etc. Et notamment, puisqu'il s'agit d'un road movie, nous projetons sur le film des motifs associés au thème du voyage et en général au film de route. Par exemple, on pourrait penser au Magicien d'Oz de Fleming en 1939. On sait que dans notre culture, et dans beaucoup de cultures, le voyage dans l'espace se double en général d'un voyage intérieur. Le voyage intérieur pour Alvin Straight, ça va être un voyage de réconciliation avec son frère, bien sûr, puisque c'est l'objectif du voyage, mais aussi de réconciliation avec lui-même. Et chaque rencontre, qui apparaît fortuite dans le film, et qui apparaît encore une fois liée au hasard d'un voyage, chaque rencontre, en fait, va prendre la fonction d'une épreuve initiatique et d'un symbole. La première rencontre, c'est une jeune fille en fugue. La deuxième, c'est une rencontre de jumeaux querelleurs, de jumeaux qui se disputent. Ouais, on voit tous les mythes qu'il peut y avoir là derrière. Hein. La troisième rencontre, c'est celle d'un vieil homme qui a le même âge que lui et avec lequel d'ailleurs il va partager des vieux souvenirs douloureux, des souvenirs de guerre. Et puis la dernière rencontre, c'est un pasteur, donc l'homme du ciel, l'homme de Dieu, avec un dialogue dans un cimetière. Hein. Donc là, le symbole est presque appuyé. Donc voilà, la jeune fille, les jumeaux, le vieil homme, le pasteur. On a l'impression de cheminer en fait dans les différents âges de la vie. Et ce qui pourrait, dans une première lecture, apparaître comme simplement le hasard des rencontres et donc un récit réaliste, apparaît en fait comme un récit largement métaphorique. Et d'ailleurs, quand on observe le film, on se rend compte aussi que la musique de Badalamenti, puisque la musique du film est de Angelo Badalamenti, comme presque tous les films de David Lynch, eh bien, elle est double en fait. Il y a deux thèmes. Il y a un thème au violon qui accompagne le voyage dans l'espace. Hein, quand on voit Alvin Straight sur sa tondeuse, le thème est au violon. Et puis il y a un autre thème qui est un thème à la guitare et qui n'apparaît que à ces moments où Lynch insiste sur ce symbole de la réconciliation et de l'union recréée entre des êtres.
Did you ride that thing all the way out here to see me?
I did, Lyle.
D'ailleurs, signalons que c'est un des rares road movies aussi où la musique est toujours extra-diégétique. Il n'y a quasiment pas de musique diégétique. Bon, il faut dire qu'il n'a pas d'autoradio sur sa tondeuse, donc ça limite bien sûr les possibilités qu'il a de lui-même écouter de la musique. Et donc, la musique est toujours extra-diégétique, ce qui est une manière aussi pour Lynch d'insister sur l'intériorité du personnage, hein, puisque la musique est extra-diégétique, elle renvoie à l'ambiance que le cinéaste veut créer et pas à ce qui se passe dans l'univers des personnages. Elle insiste aussi, cette musique, je l'ai dit, la musique de Balamenti, sur l'idée de lien. Et le montage lui-même, d'ailleurs, du film est très liant. Il y a beaucoup de fondus enchaînés, alors que d'habitude, dans beaucoup de films de Lynch, on peut penser à Sailor et Lula, notre road movie de 90, eh bien le montage est au contraire très cut, et on passe d'un plan à un autre de manière très violente, sans transition, et le spectateur est comme ça maintenu sous tension, alors que dans une histoire vraie, on est plutôt dans le lien, dans le liant, et dans le fondu enchaîné, parfois très lent, et donc on est dans le continu. Donc, en conclusion et par rapport à cette idée de réalisme, on peut dire que la vraie histoire, puisque j'ai dit que c'est inspiré d'une vraie histoire, Alvin Straits, il a vraiment existé et il est vraiment allé retrouver son frère, mais on peut dire que la vraie histoire, si elle n'est pas indifférente bien sûr, hein, c'est pas seulement un prétexte, mais elle est finalement absorbée. La vraie histoire est absorbée par le film qui est une histoire vraie et elle est absorbée par le travail proprement artistique de David Lynch. Et donc finalement, on peut se dire qu'une histoire vraie n'est pas plus un film réaliste que les autres films de David Lynch.
Les chroniques road moviesophiques du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off of the war.
Et sur radiogrenouille.com.